VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 juin 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, en Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre Guillaume Soro est condamné à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Les magistrats au Tchad ont décidé d'entrer en grève pour 3 jours après l'assassinat de leur collègue. Éthiopie, une frappe aérienne fait au moins 43 morts dans la région du Tigré. Le secrétaire d'État américain a demandé mercredi le retrait de Libye des troupes étrangères à l'ouverture du sommet de Berlin. Ne manquez pas dans cette édition d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été condamné en son absence à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
En condamnant Guillaume Soro à la prison à perpétuité, la Cour d'assises d'Abidjan a suivi les réquisitions du parquet. Elle a aussi condamné à 20 ans de prison Souleymane Kamagaté d'Issoul Toussoul, ancien chef du protocole de M. Soro, Afoussi Bamba, ancienne ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication. Deux des frères de Guillaume Soro et son ancien bras droit Alain Loboyon ont été condamnés à 17 mois de prison pour trouble à l'ordre public. La Cour a aussi ordonné la confiscation des biens de Guillaume Soro et de ses 19 co-prévenus, ainsi que la dissolution de son mouvement Génération et Peuple solidaire, accusé de se livrer à des actes subversifs. Elle a ordonné aux condamnés de payer solidairement 1 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. La justice reproche à M. Soro d'avoir fomenté avec ses partisans une insurrection civile et militaire visant à renverser le pouvoir lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019. En avril 2020, Guillaume Soro, qui vit en exil, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir tenté, selon la justice, de s'approprier une résidence achetée par l'État pour le loger lorsqu'il était Premier ministre.
Deux civils ont été tués mardi au Niger lors d'une attaque contre le village de Fontio dans la région ouest de Tillabéri. Les deux civils tués à Fontio sont respectivement un directeur d'école et un inspecteur de l'enseignement à la retraite. Du bétail a été emporté par les assaillants venus à moto, selon des sources sécuritaires qui précisent que les victimes ont été surprises dans leur sommeil. Par ailleurs, l'armée a repoussé hier une attaque du groupe Boko Haram, tuant 3 assaillants à Bosso, dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger. Un gouvernement a été formé aujourd'hui en Centrafrique, 2 semaines après la nomination d'un nouveau Premier ministre, a annoncé la présidence dans un décret. Le nouveau gouvernement, formé de 31 membres et d'un ministre délégué, dont de nombreux entrants, est composé de proches du président Faustin Archange Touadéra, réélu en décembre 2020 à l'issue d'un scrutin contesté auquel moins d'un électeur sur 3 a pu participer en pleine offensive rebelle. Claude Rameau-Biro, fidèle du chef de l'État, prend le poste de ministre de la Défense. Gontran Djono Ahaba, qui était depuis 2017 ministre de l'Énergie, devient ministre des Transports. La formation de ce gouvernement intervient 2 semaines après la nomination de Henri-Marie Dondra au poste de Premier ministre en remplacement de Firmin Ngrebada en fonction depuis février 2019. Au Tchad, un procureur de la République a été assassiné aujourd'hui à Oum Ager, une ville dans le centre du pays, par un individu armé d'une arme blanche. Les deux corporations de magistrats du Tchad, qui se disent indignées face à cet assassinat crapuleux de leurs collègues, ont décidé d'observer 3 jours de grève sur toute l'étendue du territoire national. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, nous en dit plus.
Il s'agit de Ahmad Mahamat Amba, procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Oumadjer dans la province du Bata. Il a été assassiné à son bureau par un individu à coups de couteau. Le 13 mai dernier, Abdelaziz Ousmane, un citoyen la trentaine revolue, a succombé dans un début de boisson à fabrication locale. Informant le ministère public à travers le parquet de grande instance d'Oumadjer ouvre une information judiciaire. Une vingtaine de personnes ont été appréhendées pour mesure d'enquête sur la mort d'Abdelaziz Ousmane. Malheureusement, 4 prévenus ont trouvé la mort en prison pour mauvaises conditions de détention. Le présumé assassin du procureur de la République se réclame parent d'un des détenus décédés à la maison d'arrêt de la dite localité, ce qui l'aurait poussé à commettre ce crime. Colère et indignation des corporations des magistrats du Tchad. Djonga Arafi est le secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad.
Nous avons décidé, séance tenante, l'observation de 3 jours de grève sur l'ensemble du territoire national. À partir d'aujourd'hui, avec effet immédiat.
Selon des témoins, témoin, le présumé assassin aurait agi sous l'emprise des stupéfiants et a été aussitôt tué par le service de sécurité. Un chef de communauté qui se trouve sur le lieu a reçu une balle perdue et un gendarme blessé. Actuellement, le corps du procureur et de son assassin sont à la morgue de l'hôpital d'Oumadjer. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En Éthiopie, une frappe aérienne a touché mardi un marché très fréquenté dans la région du Tigré, faisant des dizaines de blessés et de morts. Le point avec Mouhamadou Mfa.
Selon des témoignages recueillis sur place à Mekele, capitale du Tigré, la frappe aérienne a touché mardi vers 13h heure locale un marché fréquenté de Togoga. Le bilan précis était encore inconnu mercredi, l'accès à la zone étant bloqué par des soldats. Mais selon un responsable médical, au moins 43 personnes ont été tuées. Le porte-parole de l'armée éthiopienne, le colonel Gednet Adan, n'a ni confirmé ni démenti l'incident. Il a déclaré que les frappes aériennes étaient une tactique militaire courante et que les forces ne ciblaient pas les civils. Un porte-parole du premier ministre Abiy Ahmed et le chef d'un groupe de travail gouvernemental sur le Tigré n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'incident. Le Tigré est en guerre depuis le mois de novembre quand le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale pour arrêter et désarmer les dirigeants du TPLF, parti à l'époque au pouvoir dans cette région. Annoncée comme brève, cette opération militaire s'est transformée en un conflit de longue durée, marqué par de nombreux récits d'exactions sur les populations civiles.
Le secrétaire d'État américain a demandé aujourd'hui le retrait de Libye des troupes étrangères, un des principaux enjeux de la tenue d'élections. Un sommet international se tient aujourd'hui à Berlin. Le point avec Eric Manirakiza.
Juste avant l'ouverture du sommet, Anthony Blinken a déclaré que l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre doit être pleinement mise en œuvre, y compris par le retrait de toutes les forces étrangères de Libye. Nous partageons avec l'Allemagne l'objectif d'une Libye souveraine, stable, unifiée et sûre, libre de toute ingérence étrangère. C'est ce que le peuple mérite et c'est essentiel pour la sécurité régionale, a fait valoir le secrétaire d'État américain qui a entamé mercredi une tournée européenne. Tous les acteurs de la région et pour la première fois le gouvernement de transition libyen participent à cette conférence au niveau des ministres des Affaires étrangères ou de leurs adjoints. 10 ans après le renversement de Muammar Kadhafi, les participants feront notamment le point sur la transition politique en Libye. Le principal enjeu sera de garantir la tenue simultanée des élections présidentielles et législatives le 24 décembre. Le 19 janvier 2020, une première conférence avait réuni dans la capitale allemande, sous l'égide des Nations Unies, les dirigeants des pays impliqués, parvenant à un accord fragile pour mettre fin au conflit.
Les dirigeants des pays d'Afrique australe ont annoncé aujourd'hui à Maputo un accord pour l'envoi de troupes au Mozambique pour lutter contre les groupes djihadistes qui terrorisent le nord-est du pays depuis plus de 3 ans. La communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a approuvé la mission de la force d'attente pour soutenir le Mozambique dans son combat contre le terrorisme et les violences extrémistes au Cabo Delgado, a déclaré la secrétaire exécutive de la SADC, Stergomena Tax, à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'organisation à Maputo. 3 personnes ont été condamnées à 1 an de prison ferme en Algérie pour fraude au baccalauréat, a indiqué le ministère de la Justice, tandis que le pays vit au rythme des coupures d'Internet censées empêcher la triche généralisée à cet examen. Au total, 22 personnes sont poursuivies, dont 15 placées en détention provisoire pour diffusion et fuite de sujets d'examen du baccalauréat par le biais de moyens de communication à distance, à savoir les réseaux sociaux, selon ce communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden dévoile aujourd'hui une série de mesures pour réduire la violence armée aux États-Unis, après s'être engagé durant sa campagne à faire pression en faveur de changements sur les lois concernant les armes à feu. En 2020, les homicides ont augmenté de 30% et les agressions par armes à feu de 8% dans les grandes villes américaines, selon la Maison-Blanche. Le droit du port d'armes, qui est protégé par le 2e amendement de la Constitution américaine, est l'une des questions les plus épineuses de la politique américaine. L'ancien policier Eric Adams a fait un pas important vers la mairie de New York en arrivant en tête mardi à l'issue des premiers dépouillements de la primaire démocrate, même si les résultats définitifs ne seront pas connus avant plusieurs jours. Avec 86% de démocrates parmi les New-Yorkais affiliés à un parti, le vainqueur de la primaire de mardi à New York est quasiment assuré de l'emporter le 2 novembre jour de l'élection générale, et succédé à Bill de Blasio, en poste depuis 2014 et extrêmement impopulaire. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Le Sénégal a ouvert un centre de données nationale à Diamniadio pour assurer sa souveraineté numérique. Le centre va profiter à l'administration publique et aux entreprises privées, selon le directeur de l'Agence de l'informatique de l'État, Cheikh Bakoum. Il permettra de délivrer plus vite des documents administratifs, d'atteindre l'objectif du numérique pour tous et de généraliser le haut débit en créant 15 000 emplois, selon Monsieur Bakoum. En Afrique du Sud, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% en mai par rapport à la même période l'an dernier, selon les statistiques officielles. Le prix du carburant est 37% plus cher qu'il y a un an et ceux des véhicules ont augmenté de 6,5%. L'augmentation du prix des produits alimentaires est de 6,7%, souligne l'Agence sud-africaine des statistiques. 80 millions de personnes supplémentaires seront menacées par la faim d'ici 2050, dont la grande majorité en Afrique et en Asie, alerte un projet de rapport des experts climat de l'ONU qui doit être publié en 2022. Le manque d'eau pourrait mettre en péril la riziculture dans 40% des régions productrices, alors que la production de mil et de sorgho a déjà chuté de 20% et 15% depuis 1981, soulignent les experts.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. La fondation de la star ivoirienne du football Didier Drogba a annoncé hier à Abidjan qu'elle va aider à la formation d'un million de jeunes africains issus de milieux défavorisés en vue de réduire la facture numérique. Un partenariat entre la fondation Drogba a été signé avec 01 Talent, une structure spécialisée dans l'identification et la formation de jeunes talents numériques, indique un communiqué signé de l'ancien attaquant vedette de Chelsea et Marseille. La première zone 01 du continent sera inaugurée à Praia au Cap-Vert en septembre 2021 et accueillera 300 Cap-Verdiens et jeunes de 26 autres pays africains partenaires, selon le communiqué. Des nouvelles de l'Euro, les différentes équipes effectuent leur dernière sortie dans la phase de groupe. Dans le groupe F, la France, championne du monde, est déjà qualifiée pour les huitièmes, fait face au Portugal, champion d'Europe en titre hier. L'Angleterre a battu la République tchèque 1-0 dans le choc entre qualifiés pour les huitièmes de finale à Wembley. Pour s'adjuger la première place du groupe D, Raheem Sterling a ouvert le score à la 12e minute. Les Tchèques, déjà qualifiés, glissent néanmoins à la 3e place, dépassée de justesse par la Croatie, qui a battu l'Écosse 3-1 à Glasgow. Dans l'autre match du groupe, plus de 60 000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes de Wembley pour les demi-finales et la finale les 6, 7 et 11 juillet, au lieu de 40 000 initialement prévus, a annoncé le gouvernement britannique. Playoff NBA, Phoenix s'impose sur un dunk à la dernière minute. Bagassi Koura.
Oui, les Phoenix Suns ont enchaîné un deuxième succès, 104-103 sur les Los Angeles Clippers en finale de la Conférence Ouest grâce à un dunk du pivot DeAndre Ayton sur une remise en jeu à la dernière seconde du match. Il ne restait que 7 dixièmes de seconde au chronomètre lorsque l'ailier Jay Crowder a réalisé une passe millimétrée à Ayton qui a rabattu des deux mains la balle dans le cercle pour donner l'avantage final à Phoenix. Les Clippers semblaient pourtant avoir fait le plus dur après être revenus d'un déficit de 9 points dans le troisième quart-temps et être repassés devant dans la dernière minute du quatrième quart-temps grâce à 6 points d'affilée de leur ailier Paul George. C'est un succès marquant pour Phoenix et une nouvelle fois privé la nuit dernière de son meneur Chris Paul, le métronome offensif de l'équipe actuellement soumis au protocole sanitaire lié au coronavirus. Phoenix est désormais à 9 victoires d'affilée en play-off. Les Clippers, eux, vont devoir rebondir après ce revers et seront de retour dans leur antre du Staples Center à Los Angeles pour le troisième match demain.
Merci, Bagassi.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été condamné en son absence à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. La cour d'assises d'Abidjan a aussi condamné à 20 ans de prison Souleymane Kamagaté, Dissoul Toussou, l'ancien chef du protocole de M. Soro, Afoussi Bamba, ancienne ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication, tous en exil, avec lui en dehors de Soul Toussou. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Abidjan André Sylvain Kona, analyste politique.
La justice ivoirienne a une main très lourde concernant ceux qui ont été jugés par contumace. Par contre, à l'exception donc de Soul Toussou, les autres ont bénéficié de peines légères, 17 mois, et comme cela fait 18 mois qu'ils sont en prison, ils ont été libérés.
Qu'en est-il des militaires impliqués dans cette affaire?
En ce qui concerne les militaires, la justice les a condamnés à 20 ans. Là encore, elle a coupé la poire en deux, à l'exception du frère commissaire de Guillaume Soro, le commissaire Rigobert Soro. Évidemment, on a suivi son procès en ce qui le concernait. Il a été vraiment très difficile pour le parquet d'établir un lien direct entre lui et les affaires qui concernaient son frère.
La cour a prononcé la dissolution du mouvement de Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire, accusé de se livrer à des actes subversifs. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que les partisans et donc tous ceux qui sont dans ce mouvement-là se révoltent?
Ce qui a été reproché donc à Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro était quand même assez grave. Il y avait des armes dans le bureau de l'un des responsables de la sécurité de Guillaume Soro, au sein de ce siège. Raisonnablement, les militants qui n'avaient sans doute pas cette information seraient quand même assez gênés de protester contre cette décision. De l'autre côté, je ne suis pas sûr qu'ils ont les moyens de se révolter aujourd'hui. Ils sont un peu orphelins du fait de l'absence prolongée de Guillaume Soro. Il y a eu cette forme de décapitation avec l'arrestation de nombreux responsables du parti. De nombreux députés ne le sont plus. Je ne suis pas sûr qu'ils en ont encore les moyens.
Gbagbo, qui est rentré à Abidjan après 10 ans à la haie, on s'est dit le processus de réconciliation est en cours. Le hic, Charles Blé Goudé n'a pas encore reçu son passeport et cette fois-ci, Soro prend une prison à perpétuité alors qu'il avait déjà été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison dans une autre affaire. Est-ce que ce processus de réconciliation ne prendra pas un coup?
La réconciliation, je l'ai dit à maintes reprises, c'est ma position constante là-dessus, ne viendra pas par l'impunité. La réconciliation viendra par la justice, l'équité surtout de la justice, la vérité. En ce qui concerne le dossier précis de Charles Blé Goudé, a-t-il droit à un passeport ou non? Oui, il a droit à un passeport, et bien qu'on lui remette son passeport. Tant qu'on ne le fait pas, c'est un motif, justement, qui n'appelle pas à la réconciliation. En ce qui concerne Soro, est-ce que sa condamnation est juste ou non? Je ne sais pas. L'élément majeur, c'était donc ses armes qui étaient au siège de GPS et qui avaient été jetées dans la lagune à Assini. En ce qui concerne Laurent Gbagbo, il est rentré. Je crois qu'il y a un peu plus de problèmes en interne au FPI avec l'affaire Simone Gbagbo. Mais tant qu'il a droit à certaines choses et qu'on ne lui donnerait pas, j'ai lu quelque part que son compte est toujours gelé. Tant qu'il n'y a pas d'équité, tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de réconciliation.
André Sylvain Kona, analyste politique, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
L'ex-président mauritanien a-t-il contribué à son arrestation? Certains analystes politiques le pensent du côté de Nouakchott. En tout cas, Mohamed Ould Abdelaziz bénéficie du soutien de ses fidèles qui continuent de clamer son innocence dans l'affaire de corruption et de malgouvernance que lui oppose la justice de son pays. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.
La réaction des partisans de l'ex-président n'a pas tardé.
Aziz n'a tué personne. Il n'a pas non plus détourné l'argent public.
Pour eux, Mohamed Ould Abdelaziz est victime d'un règlement de compte politique. L'ex-président a été arrêté 2 jours après son refus de se présenter à la police, comme il le faisait 3 fois par semaine, car il est sous contrôle judiciaire depuis mars dernier. Par ce refus, Ould Abdelaziz a tout simplement favorisé les circonstances de son arrestation. C'est l'avis du journaliste et analyste politique Bakary Gueye.
Ce n'est pas parce que tout simplement il n'est pas parti signer. En fait, on sait que cela n'est qu'un prétexte. Et on a l'impression que la justice attendait juste un faux pas pour l'arrêter. Donc il cherchait juste un prétexte. Donc cela a été juste un prétexte. En tout cas, le principal objectif du pouvoir en place, qui veut tout simplement neutraliser l'ex-président et le mettre hors du jeu politique, hors d'état de nuire. Et donc c'est exactement cela, de cela qu'il s'agit.
Mais si l'arrestation de l'homme qui a régné pendant toute une décennie sur la Mauritanie est un fait exceptionnel, Bakayrigué estime que l'impact politique sera mineur.
L'arrestation pourrait ne pas avoir l'impact, en tout cas, qu'on pourrait penser sur la vie politique mauritanienne, pour le simple fait que le président est complètement isolé, le président Mohamed Abdelaziz, et actuellement il a été lâché par l'ensemble des partis, l'ensemble des groupes qui le soutenaient. Donc c'est vraiment un homme seul qui est là, qui évolue.
D'ailleurs, le parti Union pour la République, qu'il avait lui-même fondé, lui a tourné le dos en faveur de son successeur, l'actuel président Mohamed Ould-Cher El Razouani. Du côté des autorités, on s'abstient à tout commentaire sur un dossier judiciaire. Le porte-parole du gouvernement, Mortar Ould-Dahi.
Le dossier de l'ex-président et les accusations lourdes qui pèsent sur lui et qui relèvent d'ailleurs d'une enquête parlementaire est une affaire de justice. Quoi que vous voulez savoir sur cette affaire, référez-vous à la justice, posez vos questions au juge et non au gouvernement.
En effet, Mohamed Ould Abdelaziz est poursuivi pour corruption et malgouvernance pendant qu'il était au pouvoir. Des accusations qu'il a niées en bloc. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque ses projecteurs sur le sort des réfugiés et déplacés dans le monde. Chaque minute, 20 personnes sont forcées de s'enfuir à cause de la guerre, la persécution ou le terrorisme selon les Nations Unies. Ces 12 derniers mois ont été particulièrement durs pour des réfugiés à cause de la pandémie de Covid-19. L'OHCR lance de plus en plus des appels de fonds pour faire face à la hausse croissante du nombre de réfugiés à cause de la multiplication des foyers de tension, forçant le déplacement de population. Comment assurer une meilleure prise en charge des réfugiés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Direction le Sénégal, il y a 10 ans, des Sénégalais se sont opposés au vote d'une réforme constitutionnelle instituant un ticket présidentiel qui a été considéré comme un projet de dévolution monarchique du pouvoir par Maître Abdoulaye Wade, le président de l'époque. Depuis, les mouvements qui avaient porté le combat, Yanama, M23, etc., sont devenus les principaux porte-voix de la société civile sénégalaise et ont même inspiré la création d'autres organisations de ce genre à travers le pays. La correspondance à Dakar de Seydina Abagay.
Tout est parti de l'après-midi du 22 juin 2011 à la salle Daniel Brotier de Dakar. Sur place, des leaders de l'opposition politique se réunissent pour voir quelle stratégie faut-il adopter pour contrecarrer le projet de révision constitutionnelle du président Abdoulaye Wade. À leur côté, des jeunes, rappeurs, journalistes, citoyens lambda désavouent leur discours et engagent la bataille de la rue. Kilifa, rappeur et membre fondateur du mouvement Yanamar, se rappelle du sens de leur engagement.
On venait de constater un recul démocratique. Alors à un moment, on disait qu'il ne fallait pas rester les bras croisés ou il ne fallait pas rester muet sans dénoncer ça. Mais au-delà de dénoncer ça, de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution qu'on est en train vraiment de tripatouer à chaque fois que de besoin, il faut aussi descendre sur le terrain vraiment pour empêcher cette énième force.
Le 23 juin, très tôt, les jeunes et les membres du mouvement Yanamar investissent la devanture de l'Assemblée nationale et font face aux forces de l'ordre. Au début, les manifestants ne sont pas très nombreux, mais les images diffusées en direct à la télévision incitent des citoyens à les rejoindre sur le terrain. Angèle Sagna avait rejoint la manifestation spontanément et aujourd'hui, elle lutte encore pour la sauvegarde de la démocratie.
Le 23 juin a un impact et on est là, le mouvement n'est pas mort, on est là, on se bat. Toujours pour le peuple. Les gens qu'on emprisonnait sans raison, parce qu'ils défendaient leurs droits, parce que ce sont des démocrates. Ce qui est anormal, c'est de faire taire les gens. Il faut une liberté d'expression. Il y a une chose qui est anormale, il faut que les gens en parlent.
Pour que la liberté d'expression, la justice et la démocratie puissent être une réalité partout, le pari de la décentralisation a été lancé et aujourd'hui, d'autres mouvements à l'image de Yanamar sont nés et se développent partout au Sénégal. Mamadou Aw est membre de la coordination des mouvements pour la défense de la démocratie dans le département de Saint-Louis. Il explique le sens de son engagement inspiré par les événements du 23 juin 2011.
L'envie de gérer une unité. Parce que plus on est unis, plus on est ensemble, plus on est fort. On ne peut pas aller seul. Si on va seul, vraiment, ça nous affaiblit. Donc mieux vaut regrouper nos forces, adhérer dans les mouvements. C'est vrai qu'il y a eu énormément de critiques, mais à chaque fois le discours que je leur tiens, c'est il n'est pas intéressant d'être dispersé, d'être dans la touche pour à chaque fois critiquer des gens qui s'engagent, des gens qui ont des initiatives. Il faut adhérer dans une dynamique. Quand ça ne va pas, qu'on puisse avoir la possibilité d'améliorer.
10 ans après le 23 juin, 10 ans après le début de leur engagement pour l'intégrité de la Constitution sénégalaise, les jeunes au sein de la société civile, au sein des mouvements comme Yanamar, ne sont pas prêts à se désengager. Pour eux, l'essentiel, c'est de défendre la démocratie sénégalaise, quitte à être taxé de politiciens encagoulés. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Tollé en République démocratique du Congo autour des véhicules de luxe dont les 500 députés sont bénéficiaires. Des voix s'élèvent pour dénoncer une corruption. Certains députés refusent de les prendre. Le bureau de l'Assemblée nationale parle d'un prêt. Mais l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, menace de saisir la justice. Eddy Sango a joint à Kinshasa le coordonnateur de l'ODEP, Florimond Mouteba.
On a besoin d'abord que soit la Cour des comptes ou l'inspection générale des finances approfondissent les enquêtes, mais aussi tous les indices montrent qu'il y a eu effectivement cet acte de corruption, parce qu'on le sait depuis longtemps, puis confirmé par le président de l'Assemblée nationale, les audios ont circulé, et donc nous pensons que ce sont des actes qui doivent être sanctionnés, en tout cas emmenés devant la justice. Nous attendons que la Cour des comptes, notamment, ou peut-être une des cours de justice, commence les enquêtes et puisse donner plus de précisions pour que cette affaire soit menée en justice. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, depuis que ceux qui sont admis sacrés là, on a des scandales de corruption en scandale de corruption. Comment construire une démocratie de cette manière-là? En fait, aujourd'hui, le mouvement démocratique congolais est complètement dégradé à cause de ces pratiques continues de la corruption. Et donc, vous savez d'ailleurs qu'au niveau de Transparency International, l'indice de perception de la corruption du Congo, le fait que c'est dégradé. 2019, c'était 8 ans de moins. 2020, 2 de moins, en plus de 8. Pendant ce temps, lorsqu'on sort 27 ou 28 millions de dollars comme ça, qui ne sont pas prévus nulle part dans la loi de finances 2021, et qu'on le sort comme ça, on sait où, et c'est là où les enquêtes doivent s'approfondir pour savoir d'où vient cet argent. Et à ce moment-là, nous avons pourtant à l'est des besoins réels pour pouvoir donner des moyens à l'armée pour en finir avec cette insécurité, sécurité à répétition. Mais pendant ce temps-là, bon, on sort 28 millions de dollars comme ça.
Vous parlez des studios, mais rien ne prouve que c'est les présidents de l'Assemblée nationale ou ce n'est pas une imitation. En plus, l'Assemblée nationale a répondu en disant que ce n'est pas un don du président de la République, mais c'est un prêt d'une banque, comme c'est devenu une coutume. Les députés achètent par crédit des véhicules.
Un député qui est passé hier à Radio Okapi, qui demande quelque crédit, il le dit clairement. Le député n'est pas passé, quoi, il s'appelle. Il est passé, moi je peux vous annoncer que Dieu à la minute. Mais il a encore témoigné qu'il s'agit bien d'un don. Le monsieur là, ne peut pas se mettre à mentir comme ça. J'aime l'audio. D'abord, il y a l'audio du président de l'Assemblée, qui est clair. Et cet audio de député qui est passé dans une émission publique hier à Radio Capi.
Mais en justice, l'audio n'est pas une preuve qui tienne.
Mais de toute façon, nous allons faire ce qu'il faut réellement pour pouvoir avoir un dossier solide. Parce que des témoignages, vous savez, même s'il faut aller chercher des témoignages directement auprès des députés, ça, le fera.
Professeur Florimond Mouteba, coordonnateur de l'Observatoire de la dépense publique en RDC. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram ou un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.